Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
18h16, on suit toujours en direct et en fil rouge la conférence de presse de Jean Castex. Virginie Garin, cette fois on connaît les nouvelles règles qui seront applicables en France et pour tout le pays à partir de samedi.
Voilà, couvre-feu dès 18h. Pourquoi ? Parce que dans les départements où il a été déjà mis en place à partir du 2 janvier, eh bien, ces mesures sont efficaces. Il y a toujours une hausse des cas, mais elle est entre 2 à 3 fois moins importante que dans le reste du territoire français. Donc couvre-feu partout à 18h samedi.
Et on écoute le Premier ministre.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours.
18h, au moins 15 jours dans tout le pays pour le couvre-feu. Benjamin Sportouche, le Premier ministre a également annoncé des mesures qui concernent les frontières.
Oui, un durcissement des contrôles avec un test Covid négatif exigé pour tous les voyageurs arrivant d'un pays hors de l'Union européenne. Ceux qui ne pourront pas le faire dans leur pays seront soumis à 7 jours de quarantaine. C'est la même chose pour les voyageurs venant de Mayotte et de La Réunion. Donc un durcissement pour les voyageurs qui arrivent en France.
Merci à vous Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Alors on l'entend, hein, comme tous les jeudis ou presque, le gouvernement est en train de nous administrer notre traitement contre l'épidémie et nous, on ne va pas forcément très bien. Bonsoir et bienvenue à vous, Serge Effez.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste et responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Déjà sur la forme, cet exercice de la conférence de presse, c'est une bonne chose, c'est la bonne pédagogie ou finalement, ça nous stresse plus qu'autre chose ?
Mais c'est très stressant. Ça donne toujours l'impression que les ordres viennent d'en haut. Ça supprime un peu les dispositifs de concertation qui sont plus rassurants. Le fait d'être tous à la même enseigne infantilise un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a un ordre tout puissant et qu'on a tous à être au garde à vous par rapport à cet ordre-là.
Mmh. On vous a souvent entendu hein, depuis le début de cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, Serge Effez, que le pays, que les Français vont vraiment plus mal, que leur état psychique, psychologique, psychiatrique se dégrade?
Oui, absolument. Il se dégrade un petit peu plus chaque jour et ça fait quand même des semaines, comme vous dites, qu'on tire la sonnette d'alarme avec un certain nombre de mes confrères. L'état psychique des Français est calamiteux. Je ne pense pas que ces nouvelles vont améliorer les choses à l'heure actuelle. Ils n'en voient pas le bout. Ils n'en peuvent plus. Et je dirais que tous sont concernés, sans doute encore davantage les jeunes et particulièrement les étudiants qui payent vraiment un tribut mais épouvantable dans cette histoire.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, avait dit Emmanuel Macron. Là, on est au-delà de ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans et surtout de se projeter de plus en plus difficilement dans l'avenir puisque chaque jour, ça semble grignoter les chances finalement d'un rebond économique, d'une reprise des études dans des conditions normales. Donc, il y a un vrai désespoir étudiant et c'est pas seulement mon avis, si vous voulez, de psychiatre qui reçoit des gens tous les jours. C'est corroboré malheureusement par de plus en plus d'études qui montrent une augmentation des tentatives de suicide, une augmentation de la violence familiale, de la violence conjugale, une augmentation des consommations d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Si vous voulez, tout corrobore le fait qu'il y a non seulement un malaise psychique, ce qui peut s'entendre, mais l'émergence de pathologie psychiatrique à proprement parler.
De pathologie, donc c'est pas un coup de déprime, là, on est sur du... Vous disiez, mi-décembre, il y a un mois, que 20% de la population française commençait à basculer dans la psychiatrie, 20% c'est un Français sur 5. Oui. Ça veut dire quoi ? On est en train vraiment de tomber malade ? Quelle est la réponse à apporter à ça ?
Oui, ça veut dire que c'est des gens qui commencent à consommer des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs et qui n'en consommaient absolument pas auparavant, qui ont besoin de cette béquille pour pouvoir survivre d'une certaine façon. Or, quand on commence à consommer ces médicaments, malheureusement, c'est pour du long terme et c'est pas toujours facile de s'en débarrasser par la suite, surtout les anxiolytiques. Donc si vous voulez, on voit la vague actuelle, on voit la crise actuelle, mais il faut voir sur le long terme quelles vont être les conséquences de tout ça. Non seulement en termes de consommation de médicaments, consommation d'alcool, consommation de psychotropes diverses, mais aussi en termes de stress post-traumatique, de répercussions à long terme, le choc qu'a été cette épidémie et ses conséquences.
Ça veut dire, si je vous entends bien, que ceux qui sont en train de tomber maintenant ne vont pas se relever comme par miracle quand l'épidémie sera derrière nous. Ça va pas, on va pas retrouver le sourire, notre insouciance, notre légèreté du jour au lendemain.
Enfin, certains sans doute, mais ça prend du temps. Ça prend du temps Et d'ailleurs, ça a déjà été remarqué précédemment dans des crises, dans des épidémies, dans des guerres, que c'est parfois 6 mois, 1 an, 2 ans après le choc que les répercussions psychiques sont visibles et émergent.
Alors ça, c'est le constat, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai qu'on a l'impression que nos repères vacillent, c'est vrai qu'on nous prive de ce qui fait le sel de la vie, mais quelle réponse apporter à ça ?
Je crois qu'il faut de plus en plus de réponses spécialisées, de gens qui ont l'habitude de s'occuper des états anxieux, des états dépressifs.
Consulter,
bien évidemment, mais le problème, une fois que j'ai dit ça, c'est que je sais bien qu'il n'y a pas suffisamment de lieux et de spécialistes pour consulter. C'est-à-dire ce qu'a quand même révélé aussi cette épidémie, c'est qu'à quel point on avait déshabillé la psychiatrie publique depuis des années et des années, et que bien avant l'épidémie, si vous aviez un enfant anxieux ou dépressif, il fallait attendre 6 mois, voire 1 an pour trouver une place dans un CMP ou un CMPP, et qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est beaucoup plus.
Les enfants, vous les évoquiez, vous travaillez dans l'unité de thérapie familiale, on en parlait.
Ouais.
Vous êtes particulièrement inquiet pour eux parce que finalement, on n'a pas l'impression que ce soit eux qui expriment le plus de mal-être au quotidien dans ceux qu'on croise, qu'on côtoie.
Ils ne l'expriment pas forcément, ou du moins on ne le voit pas forcément, mais les enfants quand même sont de plus en plus anxieux, présentent de plus en plus de psychopathologies. Voilà, j'ai passé ma journée à ma consultation à la Salpêtrière avec des adolescents que je connaissais bien avant. C'est pas l'épidémie qui les a amenés vers moi, mais je peux vous dire que leur état s'est très nettement aggravé du fait de l'épidémie, c'est-à-dire du fait de l'angoisse, de l'anxiété, des tensions qui existent chez eux, des difficultés pour suivre une scolarité normale, etc.
Et ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants qui ne sont pas suivis aujourd'hui ? À vous entendre, on se dit peut-être qu'ils encaissent sans rien dire. Il faut leur parler quand ils sont en maternelle, en primaire, au collège. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est parent ?
Il faut les rassurer parce que les enfants sentent que leurs parents sont tendus et anxieux. Et vous savez, les enfants, ils protègent toujours leurs parents. Quand ils ne vont pas trop mal, ils ont toujours ce réflexe. Donc ils ne disent pas. Ils ne montrent pas qu'ils peuvent être tendus, qu'ils peuvent être inquiets, qu'ils peuvent être inquiets pour la santé de leurs parents, de leurs grands-parents, sur la sortie de l'épidémie. Donc il faut vraiment leur parler. Il faut les précéder un petit peu dans ce qu'ils pourrait dire là-dessus et surtout les rassurer.
La situation dans les écoles vous inquiète ? Est-ce qu'il faut un suivi dans les écoles aussi ? Est-ce qu'il faut parler de ça dans les écoles ? Est-ce que les professeurs doivent parler de ça ?
Bien sûr, mais je crois qu'ils le font, hein, bien évidemment. Les professeurs parlent de ça. Tout le monde a ça en tête. Hein, donc, évidemment, c'est du travail des professeurs aussi de rassurer dans la mesure du possible. C'est surtout quand même le travail des parents et des familles, mais si eux-mêmes sont trop anxieux et trop tendus, c'est difficile.
Alors c'est vrai que tout ça, c'est la faute du Covid, on ne va pas se raconter l'histoire. C'est une épidémie qu'on subit, que le gouvernement subit, que le monde entier subit. Et en même temps, tout nous inquiète, Serge Eiffes. Comment peut-on à la fois avoir peur d'un vaccin et avoir peur de ne pas être vacciné ?
Bien évidemment, il y a une crise de confiance qui s'est installée, et ça, depuis le début de l'épidémie, comme évidemment tout le monde a peur et tout le monde est inquiet, ça fait remettre en question un certain nombre de discours, d'autant que, et encore une fois, je ne jette absolument pas la pierre à nos gouvernants, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, mais enfin, on est souvent amené à dire une chose, son contraire, à revenir sur ce qu'on a dit. Ça a commencé avec les masques qui sont le péché originel de notre gouvernement, si je peux dire, et qui ont introduit le fait que les vérités scientifiques, elles n'étaient pas forcément si vraies que ça, qu'elles pouvaient être vraies un jour et pas vraies le lendemain. Et donc, il y a effectivement une crise de confiance par rapport à ceux qui nous soignent et surtout ceux qui nous gouvernent et qui répercutent
ceux qui soignent.
Et ça compte
psychologiquement, ça a des effets, cette crise. Le fait qu'on se dise, mais ils nous ont raconté n'importe quoi sur les masques, ça nous tape sur le système pour dire les choses familièrement.
Évidemment, et donc on se pose la même question sur le vaccin, d'autant qu'il circule à l'heure actuelle des désinformations, mais de tous les côtés, des théories du complot de tous les côtés, que à côté des informations officielles, il y a des informations parallèles qui sont de plus en plus étoffées, et de plus en plus vindicatives, j'ai envie de dire, et donc les gens ne savent plus à quel... Mais ce qui est rassurant pour le vaccin, mais ça j'en étais sûr, je l'avais parié dès le départ, c'est que les gens sont réticents au début, puis ils voient que de plus en plus de gens se vaccinent, et que...
La confiance vient avec la
vaccination.
On a parlé des enfants, on a parlé des étudiants, décidément à chaque âge ces problèmes. Pour les adultes, c'est souvent le télétravail qui a été plutôt bien vécu au début début, hein, il faut le dire. Et là, de plus en plus de salariés, ils voient une sorte de prison. Je vous cite un témoignage. À la maison, on n'a que des problèmes. On n'a pas les bons côtés du boulot, les côtés où on rigole. On parle de tout et de rien. Du coup, le soir, ça monte. Il n'y a pas de soupape de décompression.
Mais c'est vrai. Et ce qui nous manque le plus, on est quand même des êtres relationnels. Hein. Évidemment, on a besoin d'être en bonne santé et de manger. Mais on a aussi besoin de relations sociales. C'est ça qui nous fait. C'est aussi important que de respirer. Et ces relations sociales qui se raréfient de plus en plus avec des gens qui sont parfois seuls chez eux, ou des couples, ou des familles qui se replient un petit peu sur leur cellule, et qui sont privées de distraction, de cinéma, de sortie, d'aller de temps en temps se faire un petit resto, d'aller dans un bistrot rencontrer des amis, enfin tout ce qui est le sel de l'existence. Alors effectivement, on peut vivre sans tout ça, mais sans doute pas trop longtemps, et cette idée-là...
Donc là, vous nous dites en fait, dans les heures autorisées, voyons-nous en respectant les distances, mais ne nous isolons pas.
Surtout, oui, ouais. surtout, il faut vraiment multiplier les rencontres, multiplier les liens sociaux, réels ou virtuels, si on ne peut pas faire autrement, mais on a absolument besoin de cela, sinon le peu de liens qu'on a, c'est-à-dire avec nos conjoints, avec nos enfants, et avec les gens qui sont très proches, deviennent de plus en plus crispés et de plus en plus violents.
On a appris il y a quelques minutes que le couvre-feu allait donc être porté à 18h dans tout le pays à partir de samedi. Il faut contrer l'effet apéro, a dit hier le patron du parti La République En Marche, Alissas Guérini. Moi, je vais vous dire, moi, je ne prends pas l'apéro avec mes potes à 18h, puisque je suis là. Et pourtant, cette phrase, moi, je la trouve oppressante. C'est normal qu'on la prenne mal, cette phrase, ou pas ?
Ben oui, parce que c'est même si on prend pas l'apéro, on sait très bien ce que ça veut dire prendre l'apéro. Ça veut dire prendre un petit peu de temps avec des amis, en dehors du travail, en dehors de la famille, en dehors de ces liens obligatoires, disons, qu'on a tous les jours. C'est choisir un petit peu sa soupape d'évacuation quotidienne.
Merci beaucoup Serge Effes d'être venu dans RTL Soir. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de vous rappeler dans les jours et les semaines qui viennent. Virginie Garin, juste en quelques mots, on va avoir un point complet sur tout ce qu'a annoncé le Premier ministre. Il y a des mesures spécifiques qui visent l'école et qui sont dures, qui sont fermes.
Alors, pas question évidemment de fermer les écoles, mais un protocole sanitaire qui va être renforcé dans les cantines scolaires. Par exemple, les élèves d'une même classe devront manger tous les jours ensemble à une même table. Les activités physiques sportives vont être suspendues pendant quelques semaines. Donc suspendues.
Plus de sport à l'école.
Lorsqu'elles se font à l'intérieur. Et puis, il va y avoir toute une politique de tests, puisque le Premier ministre en annonce 300 000 par semaine, donc tests des enfants et de leurs professeurs. Et puis, pour les lycées, il y avait un espoir que le mode hybride, vous savez, c'est rester une partie à la maison et aller au lycée de temps en temps, et bien que ce mode s'arrête le 20 janvier, et bien non, il va être prolongé au-delà du 20 janvier.
Donc c'est 50% d'élèves en classe et 50% à la maison. Hein. Merci Virginie. Dans un instant, on refait un point complet sur les annonces du Premier ministre. La conférence de presse se poursuit. En ce moment, c'est le ministre de l'Éducation, justement, Jean-Michel Blanquer, qui a la parole. Et puis vous entendrez la toute première réaction de celui qui représente les PME, les petites entreprises. C'est François Asselin, le président de la CPME, qui sera en direct avec nous.
RTL Soir.